C'est le temps maintenant de faire un tour de l'actualité franco-canadienne en ce 12 août 2026 avec Julien Caillouette, qui est rédacteur en chef chez Franco-Presse. Bonjour Julien.
Bonjour Denis Martin.
Alors, une directive sur la langue de travail à la Défense nationale inquiète, ça vient de Franco-Presse.
Oui, c'était la grosse nouvelle en francophonie canadienne la semaine dernière. C'était la découverte d'une directive au sein du ministère de la Défense qui affecte aussi les forces armées canadiennes, cela dit, où ils ont adopté une définition de la loi sur les langues officielles pour la langue sur les lieux de travail. Donc, l'armée avait, et le ministère de la Défense avait leur propre définition et ils ont adopté la liste des régions bilingues qui est inscrite dans la loi sur les langues officielles, la nouvelle révisée en 2023. Ce qu'on peut comprendre des conséquences en ce moment, c'est qu'il y a plusieurs bureaux qui étaient désignés bilingues par l'ancienne directive qui sont devenus unilingues. Bon, il y en a plus qui sont devenus unilingues anglophones, mais il y en a qui sont devenus aussi unilingues francophones, probablement ceux qui sont surtout au Québec. Mais il y a encore ce qui dérange dans tout ça aussi, c'est le message qui annonçait le changement dans l'infolettre qui a été publiée le 27 juillet, où on disait carrément qu'il y avait des bureaux où beaucoup de plaintes au commissariat aux langues officielles étaient faites, où on avait de la difficulté à combler des postes bilingues, puis que ce changement-là allait, en quelque sorte, de la façon que c'était écrit, régler la situation. C'est un peu ça qui a choqué plusieurs personnes. Alors moi, j'ai parlé à un vétéran francophone qui, lui, s'inquiète de l'image que ça envoie aux jeunes ou qu'on voudrait recruter en leur disant ben, « le français n'a pas vraiment sa place au sein des forces armées ». Puis le député Joël Godin, qui est au comité parlementaire sur les langues officielles, lui, souligne que peut-être que oui, la nouvelle directive respecte la loi sur les langues officielles, puisqu'elle utilise une de ces listes, mais pas nécessairement l'esprit de la loi, qui est d'encourager à protéger et promouvoir le français au Canada, alors que là, la directive fait qu'on a enlevé l'accès au français à certains endroits. J'ai aussi pu parler à un représentant, un porte-parole du ministère de la Défense, qui est directeur des langues officielles au sein du ministère, qui lui dit qu'il s'agit principalement d'un réalignement administratif, puis que dans le fond, il n'y a pas tant de changements que ça, que les services aux militaires et à leurs familles et au public ne sont pas touchés du tout, que c'est seulement la langue de travail, la langue de communication au sein de certaines unités qui est modifiée, mais que ça, dans le fond, interdit pas à personne de parler la langue qu'ils veulent non plus. Mais en tout cas, j'ai demandé d'autres données pour avoir plus d'informations sur le nombre de bureaux qui ont changé de langue, puis je vous en reparlerai peut-être.
Donc, ça va être à suivre tout ça. Les jeunes Terre-Neuviens sont moins nombreux à Québec.
Oui, on parle plus précisément des jeunes Terre-Neuviens et Labradoriens qui vont au Collège Saint-Charles-Garnier de Québec pour participer à un programme d'immersion française, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années. Puis on nous explique qu'ils peuvent s'y rendre par deux programmes. Il y a d'abord le programme Explore, qui est financé par Patrimoine canadien puis qui dure 5 semaines. Puis le programme Aventure, qui est financé par Terre-Neuve-et-Labrador et qui dure 4 semaines. Dans les deux cas, il y a seulement les déplacements qui sont pas payés. Le reste, hébergement et nourriture, c'est inclus. Et depuis 2 ans, on observe une diminution de plus de 50 % de la participation au programme Aventure, selon les responsables du collège. Pas nécessairement un manque d'intérêt pour l'immersion en français qui explique cette diminution-là. C'est peut-être plutôt le fait que les cohortes francophones et les immersions en province sont plus petites, qu'il y a moins de jeunes dedans. Il y a aussi le coût du transport, puisqu'il n'est pas payé par les programmes, qui a beaucoup augmenté. Peut-être que ça peut décourager des participants potentiels. Et ça se peut que les familles aussi aient préféré ou préfèrent faire des activités locales en famille ou préfèrent ne pas aller passer 4 semaines dans une autre province. Le gaboteur qui a produit la nouvelle a parlé à deux des 34 jeunes Terre-Neuviens qui ont participé au programme cette année au Cégep. Puis eux ont beaucoup aimé l'expérience et le recommandent à tout le monde.
Ouais, moi aussi, j'ai fait ça dans mon jeune temps, des échanges comme ça ailleurs au pays. Puis on aime toujours ça. C'est toujours le fun, puis c'est toujours des belles découvertes. Évidemment, c'est triste que les gens soient plus en mesure de faire avec les réalités financières et les coûts, hein, c'est ça. Entre célébration et lucidité financière, pour les 40 ans de la Fondation franco-ontarienne.
Oui, qui est un organisme à but non lucratif qui offrait des bourses et des subventions pour l'avancement de la communauté francophone franco-ontarienne. Je vous disais pourquoi je dis « offrait », je l'ai dit au passé. Mais elle fait quand même ses 40 ans cette année. Puis elle vient de lancer sa campagne annuelle qui est intitulée « 40 ans d'impact pour 40 $. Donc, on encourage les gens à donner 40 $ à la fondation. Ce qui peut surprendre, c'est l'objectif de la campagne, qui est de seulement 8 000 $. Dans le passé, on a vu des objectifs d'environ autour de 100 000 $ pour des campagnes similaires. Ce qui explique le directeur de la fondation, le directeur général Marc Lavigne, qui est très transparent dans l'entrevue, ce qu'on nous dit, c'est que la fondation traverse des moments difficiles. Ils ont une dette importante. Il est aussi conscient de la situation économique des gens. Donc, c'est pour ça que, pour toutes ces raisons-là, qu'on a seulement un objectif de 8 000 $. Il dit aussi que la fondation va avoir besoin de l'aide de la population franco-ontarienne pour traverser sa crise financière. Puis aussi pour... ils ont réaligné leurs objectifs. Là, comme je disais, il y a moins de subventions qui vont être données. On va se concentrer sur des bourses d'études pour les jeunes francophones qui veulent étudier en France.
Oui. Encore une fois, hein, ce domaine communautaire et les fondations, c'est difficile. Je pense que tout le monde souffre de ça, là, les revenus qui diminuent. Les petits musées ont de gros défis financiers dans la liberté.
Oui, on parle encore d'argent. Dans ce cas-ci, c'est un gros problème d'arbres que la liberté utilise pour illustrer les difficultés que peuvent apporter les dépenses imprévues aux petits musées un peu partout au Canada. Puis là, dans ce cas-ci, c'est qu'on parle de la maison Gabrielle Roy, qui est un musée consacré à l'autrice dans sa ville natale de Saint-Boniface. En 1905, il y a trois ormes qui ont été plantés devant la maison. En plus de 100 ans, ils sont évidemment devenus très grands. Là, j'ai vu des photos, puis ils dépassent la maison de deux étages. Mais le problème, c'est que leur état de santé n'est pas le meilleur, puis la météo imprévisible fait que ce sont carrément devenus des dangers pour la maison. C'est une tempête de vent trop forte, puis les arbres peuvent tomber sur la maison et démolir ce musée, ce lieu historique. Le conseil d'administration a dû donc prendre la décision de les abattre. Mais où on trouve l'argent pour faire ça quand on a déjà un déficit de quelques milliers de dollars puis que notre financement est limité? C'est la question qui se pose. Comme on dit, pour certains travaux, on peut faire appel à des bénévoles, mais pour quelque chose d'aussi important, et comme il ne faut pas que l'arbre, en étant abattu, tombe sur la maison non plus, donc ça prend des professionnels. Ce qu'on nous explique, c'est que des décisions de ce genre-là signifient qu'ils auront moins d'argent pour de la programmation pour l'année ou les années à venir. Puis, une des défenses, c'est qu'on dit qu'on attend beaucoup des petits musées sans vraiment leur donner les ressources ou les moyens de remplir pleinement leur mission.
Bon, on va arrêter de parler de problèmes financiers. une nouvelle quand même un peu plus joyeuse pour la fin des agriculteurs francophones de l'Ontario à la poursuite d'un record Guinness dans Agricom.
Ça va avoir lieu à Saint-Albert, dans l'Est ontarien, le 22 août. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un appareil qui permet d'attacher plusieurs charrues pour le labour ensemble. Puis, leur objectif, c'est d'avoir le plus grand nombre de lames de labour dans le sol en même temps. Que ça fonctionne et créer des sillons. Ce qu'ils ont construit fait environ 300 pieds de longueur, là, donc une centaine de mètres. Puis, ça va être tiré par trois tracteurs. Et c'est plus compliqué qu'on pense, ce qu'on nous explique dans l'article, parce qu'il ne suffit pas d'attacher les charrues là-dessus. Il a fallu faire quelques modifications mécaniques pour qu'elles puissent rester stables et labourer dans la même direction et que ça fonctionne et que ça ne bloque pas. Il y a aussi le risque de la météo qui peut jouer un rôle, parce que si la terre est mouillée, bien, ça va être plus difficile à labourer, ça peut créer plus de friction. Donc, on espère que les tracteurs sont assez forts. Et on ne peut pas repousser la date, par contre, parce qu'il y aura des représentants de l'organisme des records Guinness sur place le 22 août. Et on va faire attendre cette date-là pour savoir s'ils ont réussi.
Toujours fascinant, encore une fois, ce que les gens pourraient faire pour avoir un record Guinness. C'est absolument fascinant. Ben écoute, j'ai hâte de voir les images de ça, Julien. Merci beaucoup d'avoir partagé ces informations-là avec nous.
Ça m'a fait plaisir.
À la prochaine.
À la prochaine.